la radio Interco. C'est 5 villes.
C'est la Comcom Vallée de Hérault
avec plusieurs espaces jeunes du territoire
réunis pour une même émission.
Chaque mois, de nouveaux sujets. Découverte d'une profession, d'un patrimoine, d'une passion, partager nos idéaux.
On abordera la culture, mais aussi les sujets qui intéressent les jeunes.
Jeunes mais pas trop.
Toute notre vie, nous y sommes exposés. Il fait la une des journaux, se répand dans la rue, infecte les bureaux, squatte les scènes culturelles, s'invite dans les dîners de famille et l'invité d'honneur des élus, s'attaque à toute forme d'évolution, impose sa manière de penser sur les réseaux, est l'ami des puissants et s'incruste même dans les cours d'école. Le harcèlement, comme une peste, pourrit tout ce qu'il touche. D'où naît-il? D'où sort-il? Pourquoi agit-il? À se rassasier du malheur des uns et des autres qu'il persécute pour toujours plus s'imposer et tenter de faire disparaître en eux la moindre trace de dignité. Pas un jour où nous ne découvrons un élu, un réalisateur ou un journaliste qui en soit le bras armé, et encore ce n'est que la partie médiatisée de l'iceberg. Est-il possible de croire, même de manière utopiste, que si nous agissons à notre échelle dès l'enfance pour endiguer le mal du harcèlement, il ne viendra pas nous rebondir dans la face étant adulte? Une des animatrices de l'association Famille Rurale à Saint-Jean-de-Fosse de cette émission de Jeunes mais pas trop en a, elle, la conviction. Qu'il faut sensibiliser dès que possible les scolaires à cette question, qu'il faut le répéter dans les classes, qu'il faut se montrer avenant envers ceux qui en souffrent, et qu'il faut prendre à partie les bourreaux pour faire apparaître l'absurdité de leur acte. Plus facile à dire qu'à faire, mais notre animatrice Célia, présente dans le studio, a eu à cœur de partager son expérience. Elle qui a vécu directement le harcèlement, en a souffert, mais aujourd'hui a surmonté cette épreuve et assume de prendre la parole pour dire non. Vous-même qui écoutez devez avoir connu une situation similaire et j'espère que vous serez réceptif au témoignage de notre animatrice. Bonjour Célia.
Bonjour.
Ça fait plaisir en tout cas que tu sois là, présente pour l'émission Jeunes mais pas trop aujourd'hui et d'aborder ce sujet épineux qui est le sujet du harcèlement. Et je précise à nos auditeurs que c'est toi, ainsi qu'un autre animateur qui n'a pas pu être présent, Nathalie, que nous saluons, qui a exprimé le besoin. Et pour ça, chapeau. Avec ton animatrice Audrey, tu es venue voir Audrey, tu lui as dit, tiens, en fait, pourquoi on ne parlerait pas d'harcèlement dans cette émission?
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, tu avais ramené, on a eu une grande discussion avec Audrey, l'animatrice de Famille Rurale, et tu avais ramené à cet effet un courrier, une lettre que tu as lue devant tes camarades de classe en cours de français.
Oui.
Tu peux nous expliquer quelle a été ta démarche avant de lire cette lettre?
En fait, on devait faire un texte sur ce qui nous tenait à cœur. Et moi, ben, j'ai pensé à l'harcèlement. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Et voilà.
D'accord, il y avait ce devoir-là de la professeure. Mais quand même, toi, tu t'es dit comment y mettre aussi une touche personnelle. Et tu es allé assumer cette relève devant tes camarades, quoi.
Oui.
Ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est de nous lire de cette lettre et après qu'on en parle.
Ok.
C'est ok pour toi? Voilà, donc une lettre de Célia, lue devant ses camarades de français.
Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui du harcèlement, car oui, on n'en parle pas assez. Comme vous le savez, ça touche beaucoup d'élèves, de la primaire au lycée. J'ai les pourcentages, les voulez-vous? Je vais vous les donner. En primaire, 2,6%, au collège, 5,6% et au lycée, 1,3%. Des élèves sont concernés. Rendez-vous compte de l'importance de ces chiffres. 800 000 à 1 million d'élèves seraient victimes du harcèlement scolaire, soit 6 à 10% des élèves. Un quart des collégiens, parmi lesquels une majorité de jeunes filles seraient victimes de cyberharcèlement. Et maintenant, savez-vous ce que c'est le harcèlement? Vous allez me dire oui, mais savez-vous exactement ce que c'est? Moi, je vais vous le dire. C'est une violence répétée, violence physique, violence verbale et même psychologique. Est-ce que vous aimeriez que ça vous arrive? Je ne crois pas, non. Vous ne le voyez pas, mais ces gens-là souffrent à longueur de journée. Et même, il y en a qui se suicident. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, non. Donc, s'il vous plaît, Dites-le. Dites-le que ce soit toi qui en es victime ou toi qui le vois. Dis-le à la CPE ou aux surveillants. Ça finira par être détruit et même par être exterminé. Le harcèlement est une cicatrice morale et mentale. Donc, dis-le.
Alors, c'est une lettre, l'émotion est palpable ici. C'est une lettre très dense et il faut beaucoup de courage. Et tu as choisi aussi de t'adresser directement par le vous à tes camarades.
Oui, pour qu'ils se sentent concernés, parce que tout le monde participe au harcèlement sans vraiment le savoir. On voit partout, mais on n'y prête pas attention. Donc bah, c'est pour rendre tout le monde un peu coupable de ce qui se passe.
En tant que tel, s'il y a des positions d'harcèlement, ouais, on est tous plus ou moins complices à ce moment-là, dans sa salle de classe, de cette position. Ouais.
Oui.
Tu as fait pas mal de recherches aussi pour écrire cette lettre, notamment sur les chiffres. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces chiffres que tu as trouvés?
Oui, j'ai passé beaucoup de temps à chercher. 2 heures de cours en tout. C'est beaucoup. Les chiffres sont grands. Ça paraît pas comme ça, mais c'est énorme. Ça devrait être moins.
Ah, tout à fait. Et puis on en parlait aussi avec Audrey, de savoir en fait qu'il y a quand même beaucoup de cas, quoi. Ça peut être, si c'est 1, 2, 3, 4 par classe, c'est déjà, oui, c'est déjà trop en fait.
Oui, beaucoup trop.
Tu parles aussi des différents types de violences.
Oui, il y a les violences, c'est des violences répétées, comme je l'ai dit. Il y a des violences physiques, donc ça peut être des coups, il les pousse. Ça peut être verbal, donc juste des mots, même avec des mots, ça blesse énormément. On s'en rend peut-être pas compte, mais ça blesse énormément. Et psychologique, parce que ben, ça atteint la psychologie, quoi. C'est compliqué, parce que dès que tu te lèves le matin, tu te dis, bon, faut que j'aille en cours. Il y a des gens qui sont là, ils vont me taper, m'insulter tous les noms. Donc, ben, t'as pas trop envie d'y aller.
Ouais, ça pose la question des souffrances visibles, des souffrances invisibles. C'est pas seulement des marques, c'est pas seulement des coups, c'est aussi tout ce qu'on contient, les mots qu'on a à l'intérieur de nous, quoi.
Ouais.
La définition du harcèlement, ce serait une violence répétée, en effet, qui peut être verbale, physique ou psychologique. Et oui, elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre. Tu parles aussi, voilà, il y a le vocabulaire de la cicatrice, de la souffrance.
Oui.
Toi, tu as ressenti aussi ces cicatrices intérieures.
Oh oui, et je l'ai encore. Maintenant, je l'ai encore et c'est compliqué parce que dès qu'on nous parle ou dès qu'on nous dit un petit truc, ben, on sent touché parce que du coup, on a toujours cette cicatrice qui reste à vie et du coup, c'est compliqué.
D'où cette urgence aussi de briser le silence. C'est vrai que c'était quelque chose aussi, tu étais beaucoup revenu quand on s'était vu avec Audrey pour en parler. Et comment briser le silence, quoi? Parce que ça commence par là, en fait.
Pour les personnes qui se font insérer, c'est pas simple. Je le conçois totalement. Faut le dire. C'est une chose qu'il faut faire et peut-être la seule. Faut le dire, faut en parler soit à ses amis ou même à un membre de sa famille, à ses amis. Et comme je l'ai dit, si vous êtes au collège, à CPE ou au surveillant, ou à l'école à votre professeur, à votre maître, voilà, faut en parler, faut pas rester dans le silence, parce que sinon ça va continuer et il peut y arriver, il peut se passer de graves choses, quoi.
Quand tu as lu cette lettre, quelle a été la réaction de tes camarades ?
Eh ben, ils ont été touchés, très touchés. Ils ont limite pleuré parce qu'ils se sentaient coupables, en fait. Et du coup, c'est ce que bah, j'ai voulu qu'il se passe. Et j'étais assez contente. Du coup, ça m'a fait plaisir.
Ouais, tu as eu des discussions avec eux après la lecture?
Non, pas forcément. Mais ils sont venus me dire bravo, c'était extraordinaire.
Ouais, ce qui est déjà...
Je me sentais touchée.
Ce qui est déjà une première action, parce qu'on pourrait justement éviter le sujet, dire ah non, ça ne me concerne pas, alors que ça concerne tout à chacun, oui, comme tu disais tout à l'heure. D'après toi, comment on en vient à cette situation d'un harceleur et de quelqu'un d'harcelé?
Il suffit qu'une personne vienne te voir parce que t'es pas comme les autres, entre guillemets. Parce que t'as un truc qui va pas, soit t'as pas le même style qu'eux, où bah, t'as pas les mêmes cheveux, t'as pas les mêmes yeux, t'as une particularité. Voilà, c'est beaucoup de choses qui font que du coup tu te fais harceler et que du coup t'es un harceleur.
Hmm. Comment toi t'as commencé à te révolter face à ce qui pouvait t'arriver?
Alors ça, j'ai pris du temps avant de me dire qu'il faut que je le dise. Je l'ai dit à mon père,
déjà,
à ma mère aussi. Je le disais même au maître, sauf qu'il faisait rien. Il disait oui, ouais, t'inquiète, je vais aller les voir. Il est allé les voir. Ils ont dit refaites plus ça. Et sauf qu'il faisait rien d'autre. Donc c'est compliqué d'entendre que du coup ça parle de partout, harcèlement, faut arrêter ça et tout. Sauf que ben les profs ils font rien quoi.
Hmm. On avait vu en faisant les recherches qu'il y avait aujourd'hui des dispositifs pour justement aider les professeurs, aider les directeurs à pouvoir s'emparer de ce problème-là, avec justement le dispositif phare qui normalement oblige les structures scolaires à s'organiser, à avoir des conseils de prévention. Et toi, c'est vrai que ça, tu ne l'as pas eu à ce moment-là, ouais.
Non, j'étais trop jeune. C'est sorti en 2022, c'était obligatoire en 2022.
Ouais,
c'est la rentrée 2022, avant, on pouvait le faire, mais ce n'était pas obligatoire. Et là, c'est devenu obligatoire, sauf que je ne sens pas qu'ils le font. Dans les collèges, voire même les lycées ou les écoles, je ne pense pas qu'ils le font.
À l'heure actuelle, il n'y a pas de conseils de vie collégienne vis-à-vis de ces problèmes-là, quoi.
Ouais. Non.
Quand tu en as parlé à ta professeure, comment elle a réagi, elle aussi, enfin aussi encore une fois, à la lecture de cette lettre, est-ce qu'elle s'est dit, tiens, un moment, il faudrait peut-être faire remonter un petit peu ce problème?
Non, je pense pas. Donc, je pense que pour elle, c'était juste un texte, que du coup, bah, j'ai vécu ça, mais que voilà, c'est pas un sujet qu'il faut approfondir, quoi.
Aujourd'hui, toi-même, quand tu es témoin d'un acte de harcèlement, comment tu réagis? Parce que je sais que tu es venu en aide à des victimes, donc tu as vu qu'elles se faisaient harceler. Et comment on va leur parler?
Déjà, on va les voir, on dit, tu peux en parler. Fais pas comme moi. Je l'ai pas dit, j'ai fait l'erreur de pas le dire et franchement, je l'ai regretté. Donc, va voir quelqu'un, dis-le, après tu fais comme tu veux. Mais c'est juste un conseil. Voilà, tu fais ce que tu veux, je te le dis. Donc, fais pas la même erreur, quoi.
Et vis-à-vis d'un harceleur, est-ce que c'est possible aussi d'aller leur parler? Est-ce que
C'est compliqué. Parce que, moi, je pourrais pas. Parce que, du coup, j'ai la peur que, ça reprenne, quoi. Donc, j'irai pas aller leur en parler. C'est pas possible.
Ouais.
Enfin, pour moi, quoi.
Encore aujourd'hui, ouais. C'est, toujours la même difficulté. Qu'on ne peut pas, à travers les mots, pouvoir apaiser une situation qui nous dépasse. C'est quoi pour toi le profil du harceleur, s'il en existe un d'ailleurs?
Je pense pas qu'il en existe un. Après, les harceleurs, c'est souvent qu'ils ont des problèmes dans leur famille, très certainement. Parce que ce qui se passe dans la famille reflète sur ce qu'il est. Tout ce qui se passe chez lui ou quoi, il le ressort en dehors. Donc si c'est comme ça chez lui, si c'est comme ça dehors, c'est que c'est comme ça chez lui, quoi.
Un mal intérieur là, qui vient s'exprimer.
Voilà.
Et la personne va...
Pour se libérer tout simplement de ce qui ressent là, chez lui, en fait, et qu'il ne peut pas exprimer. Donc il le ressort dehors, quoi.
On se demandait aussi dans quel cas est-ce que ça commence dès l'école primaire, le harcèlement? Parce qu'on parlait aussi que dans certaines écoles, ça pouvait commencer très très tôt, quoi.
Oui.
Donc entre l'école, les collèges, les lycées, comment ça évolue tout?
Quand vous avez vu dans les chiffres, en primaire, il y a 2,6%, au collège 5,6% et au lycée 1,3%. Donc au collège, c'est le chiffre le plus important des trois. Parce que déjà, ils sont, on va dire, plus matures. Et du coup, c'est plus dur ce qu'ils disent. Ils se rendent compte quand même de ce qu'ils disent. Et du coup, ils le disent. Et du coup, ça blesse beaucoup. Mais aussi au collège, ils font des... prévention, mais sauf qu'ils n'écoutent pas parce qu'ils s'en fichent en fait, tout simplement.
surtout le collège, où là on grandit, nos corps deviennent différents, c'est une position quand même très fragile en tant que soi pour tous les collégiens d'ailleurs,
ouais, voilà.
Ceci profiter de ce statut un peu de faiblesse. Tu nous disais aussi que tu faisais du judo, que tu pratiquais le judo,
oui.
Et que ça avait pu t'aider dans certaines situations.
Ouais.
Sans appeler non plus le recours à la force, mais qu'à un moment, Coco...
Oui. Bon, après, moi, j'aimais bien ça, mais c'est surtout mon père qui a voulu pour me dire, écoute, faut que tu défendes, c'est plus possible. Donc, ben, il s'est mis à m'apprendre des moyens de se défendre de l'armée. Normalement, il n'a pas le droit, mais voilà. Et j'ai commencé à faire du judo, donc pendant 4-5 ans, j'ai fait du judo.
Et tu sens que ça t'a aidé justement à
Pas forcément, non.
Pas forcément.
Pas forcément, mais ça m'a aidé quand même une fois à pouvoir me défendre. Et depuis ce jour-là, ben, je suis plus harcelée, quoi.
Ouais, d'accord. Donc il a fallu quand même ce rapport à la force aussi pour dire non, à un moment,
oui.
Stop, tu me touches plus et t'arrêtes de toucher mes camarades, quoi. Mettre aussi ses limites avec l'autre.
Voilà.
Des fois aussi, tu disais qu'on pouvait être amis avec ces harceleurs. Ça doit être encore une situation ultra compliquée, ça aussi.
Alors oui, ben moi, je suis arrivée à Saint-Jean-de-Fosse en grande section. Donc j'avais 5 ans. Là où j'étais avant, c'était vraiment tout rose. J'étais amie avec tout le monde, on s'entendait tous super bien. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à taper, pousser. Donc comment dire que ça commence déjà en grande section. Et c'est... Maintenant, ben, mon harceleuse, c'est mon amie, quoi. Ma meilleure amie. On s'entend très très bien. En fait, elle était sous influence d'une autre personne.
D'accord.
Donc, ben...
On peut avoir aussi autant des profils masculins que féminins.
Oui.
Tout se joue aussi sur les relations sociales, les visions, comment on veut se faire bien voir aussi de ses camarades en allant faire du mal aux autres, quoi.
C'est ça.
Et aujourd'hui, tu sens que tu es bien entourée en termes d'amis. Justement, ça a évolué aussi, ça, avec cette amie.
Ouais. Franchement, je peux leur faire confiance. Je leur dis tout. Et franchement, ça aide beaucoup d'avoir des amis en qui t'as confiance pour pouvoir leur dire ce qui se passe et que ben, peut-être qu'elles vont aller le dire. Enfin, voilà, mais ça aide beaucoup. Parce que du coup, tu t'es pas obligée de le garder pour toi. Tu peux leur dire et tu sais que, ben, elles vont peut-être le dire si c'est grave, mais... elles vont quand même le garder un peu pour elles, quoi.
Ouais, donc ça, c'est très important aussi, ce sentiment de confiance les uns avec les autres pour former un groupe et pouvoir résister ensemble.
Oui.
Une des choses aussi qui avait été très marquante quand on avait discuté, c'était que t'étais toujours restée positive, quoi. T'avais toujours gardé l'espoir. Alors,
Oui. Même si ça allait pas, j'étais là, t'inquiète pas. Ça va bientôt passer. C'est juste un passage de la vie, c'est normal. Ça va... bientôt partir, t'inquiète pas. Et ben, ça a quand même continué, mais il fallait que ben, j'intervienne parce que sinon ça allait pas passer, quoi.
Ouais, complètement. Tu disais même quand ça allait pas, tu restais, enfin, tu essayais de montrer aussi à tes parents, à ta famille, enfin voilà.
Oui, ça, à chaque fois que je rentrais, mes parents voyaient que ça allait pas. Mais je disais non, t'inquiète pas, ça va super.
Okay.
C'est rien passé aujourd'hui, ça va nickel. Et même encore aujourd'hui, quand ça va pas, je reste. Joyeuse, je garde le sourire quoi qu'il arrive.
Tu utilisais aussi la métaphore de briser la chaîne, ça j'aimais bien. Est-ce que tu peux revenir dessus, comme si on était enchaîné malgré soi et avec cette idée de boucle aussi infernale.
Bah oui, c'est une boucle infernale en fait. Parce que si tu le dis pas, bah, il va continuer parce qu'il sait que tu le dis pas, donc il va pas se faire apprendre, donc il va continuer. Mais toi, tu dis si je le dis. Et ben il risque de me taper encore plus fort dessus, il risque de me retomber dessus encore plus fort. Donc tu dis ben je vais pas le dire. Et du coup tu restes dans cette boucle. Ah, tu peux rester très longtemps.
Jusqu'à la fin du système scolaire quoi. Donc
voilà, même plus. Même maintenant au travail, il y en a ils se font harceler quoi.
Oui, harcèlement au travail, dans la rue, dans sa famille, voilà, des répliques démorales pour écraser l'autre quoi. C'est quoi les conseils que tu donnes à quelqu'un en position de harcèlement?
De le dire.
De le dire encore une fois, ouais. Vraiment briser le silence,
voilà.
C'est très important. C'est vrai qu'avec Audrey, on avait été aussi pas mal émus par cette prise de parole. Toi-même, Audrey, c'est vrai que c'était une situation à laquelle tu fais face aussi en tant qu'animatrice.
Alors moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que du coup, quand... J'étais plus jeune au collège, je me suis fait harceler aussi. Donc du coup, quand je vois des jeunes qui passent sur la structure et qui me parlent de ça, c'est quand même quelque chose qui me touche particulièrement, quoi. Et c'est vrai que moi, en tant qu'animatrice, à part leur dire, comme Célia n'arrête pas de le dire, qu'il faut en parler, quoi, autour de soi, à n'importe qui, à ses parents, à ses amis, à moi aussi. Et du coup, on est un peu démunis, quoi. C'est super compliqué, c'est un sujet qui est super lourd, le harcèlement, et c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement, et je suis super contente que Célia, elle ose en parler ici, quoi.
Et il y avait la difficulté aussi d'aborder ce sujet en dehors des structures scolaires, où toi-même tu avais essayé aussi d'aborder ça, mais c'est difficile aujourd'hui, encore une fois, de concerner les personnes.
Ouais, alors c'est super compliqué. C'est vrai, quand je suis arrivée à Saint-Jean-de-Fosse il y a 2 ans, j'avais fait une grosse animation sur le harcèlement avec un intervenant qui parlait de ça. Et en fait, vraiment pas beaucoup de jeunes qui se sont intéressés à ça, parce que soi-disant, ils en entendaient toujours parler à l'école. Et eux, ils étaient ni harceleurs ni harcelés, du coup ça les touchait pas du tout, quoi. Moi, je voulais quand même leur faire passer ce message, parce que même s'ils sont ni harcelés ni harceleurs, ils peuvent voir des choses et aider ces personnes-là, quoi, parce que on en a besoin, quoi.
Tu as aussi suivi une formation avec Radio Clapas, nos confrères radiophoniques qui aussi donnent des formations comme ça autour du harcèlement. Est-ce que tu peux nous parler de cette...
Ouais, exactement. J'ai fait une formation de 3 jours à Radio Clapas sur le harcèlement et le cyberharcèlement, parce que moi, à mon époque, je suis quand même un peu plus vieille que Célia. Du coup, ça se passait pas à la maison. Quand tu rentrais chez toi, t'étais un peu dans ta bulle et t'étais tranquille, quoi. Et maintenant, avec les téléphones portables, même quand tu rentres à la maison, tu te fais encore harceler. Ça te suit tout le temps. Et du coup, je pense que toute personne, animateur, même adulte ou même enseignant, il devrait faire ce genre de petite formation, parce que ça éclaire sur beaucoup de choses.
Et aujourd'hui, toi, comment tu t'adresses à un jeune? C'est quoi les conseils que tu donnes? Enfin, comme tu disais, briser le silence, de toute façon.
Ouais, voilà, briser le silence, en parler. Et aussi, durant cette formation à Radio Clapas, on a eu une intervenante, j'ai plus son nom, je suis vraiment désolée, qui nous a parlé d'une application de cybersecours. Et du coup, il y a tout, il y a les numéros, si on a envie de rester anonyme, si on a envie de pouvoir le faire d'une manière anonyme, quoi. Il y a tous les numéros, il y a tout sur cette application, et c'est vraiment super cool, parce que c'est une nana en plus de Montpellier qui est de la région, qui l'a créée, donc c'est vraiment cool de la soutenir, quoi.
Et toi, comment tu as surmonté l'épreuve du harcèlement à l'époque ?
Aïe, alors moi, comment je l'ai surmonté? J'ai pas eu le courage que Célia a eu d'en parler. Je l'ai vraiment un peu gardé pour moi. Du coup, ça m'a fait... ça m'a vraiment bousillé tout mon collège. Et moi, je suis pas restée amie avec mes harceleuses, pas du tout, parce qu'à la base c'était mes amis à moi, et du coup c'est ces personnes-là qui me harcelaient. Du coup, voilà, j'ai écrit, si vous voulez, j'ai un petit texte que je pourrais lire, que j'ai écrit au collège pendant ce moment-là. Je couche ces quelques mots sur du papier pour exprimer tout mon mal-être. Prise pour cible, mal dans ma peau, harcelée, mon quotidien fait de moqueries et d'insultes. Victime de violences et d'agressions, le mal de vivre dans la discrimination. À ceux qui me harcèlent, pourrais-je vous pardonner? J'ai mal partout et je n'ai pas dormi. Je suis sous ma couette, je me protège, je ne veux plus voir tous ces abrutis. Du coup, c'était un texte que j'avais écrit sur mon journal intime quand j'étais au collège, que j'ai retrouvé il y a quelques temps là, et du coup, je vous le partage. Hein.
L'écriture, ça aussi, c'est un biais important aussi, qui peut permettre déjà de pouvoir écrire ses mots, de pouvoir se confronter avec sa propre expérience, quoi.
Ouais, exactement. À l'écriture, je trouve que ça aide beaucoup à tout ce qu'on a envie de dire et qu'on ne peut pas dire, ou qu'on n'a pas le courage de dire à des personnes. Du coup, on les écrit, et ça, même si ça nous enlève pas tout le mal qu'on a en nous, mais ça nous vide un peu, ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai retrouvé quelques petits gribouillis comme ça que j'avais écrits durant cette période.
Merci Audrey pour ce partage d'expérience aussi.
Merci à RPH de m'avoir écouté.
Ça nous concerne tous, c'est sûr que c'est un problème, et voilà. Et pour éviter, comment éviter que ça continue à l'âge adulte et que jamais on ne puisse se relever de cet état? Il y avait aussi justement de passer par l'écriture, la culture aussi, et le théâtre même.
Oui, ça fait 3 ans que je fais du théâtre pendant le Covid. Et là, du coup, ça fait ma deuxième année pleine. Et franchement, ça aide beaucoup parce que ça donne de la confiance en soi. Parce que j'en avais perdu énormément, parce que j'étais fait harceler, donc j'en ai perdu énormément. Et ben, ça permet de dire ce qu'on sent sans être critiqué ni rien. Donc ça fait beaucoup de bien.
Et tu as participé à des sacrés projets, Révolution Intime.
Oui.
Tu as été sur scène aussi devant pas mal de personnes pour apporter aussi des sujets quand même assez graves, il me semble.
Oui. À ce moment-là, on avait abordé, il y avait beaucoup sur la drogue et l'alcool.
Ok.
Énormément. Il y avait aussi des violences conjugales. Il y avait aussi sur le monde, comme quoi avec la pollution et tout. Oui, il y avait beaucoup de petits textes qui étaient lourds assez et qui décrivent des vies d'autres personnes, quoi.
Ouais, qui ont peut-être aussi permis de mettre à distance des situations violentes ou des confrontations aussi, quoi. Pouvoir les voir avec du recul. Où est-ce que vous aviez joué?
On a joué à Saint-Jean-de-Fosse, à Montpérou et autre part, je ne me rappelle plus.
D'ailleurs, on pourra aussi parler de cette expérience avec ta professeure de théâtre dans la deuxième partie de l'émission.
Oui.
Et aujourd'hui, là, tu continues, quoi.
Oui. Voilà. Ah, c'est ma passion, le théâtre.
Ouais, yes.
C'est devenu ma passion. J'adore ça. J'ai commencé à vouloir faire du théâtre parce que j'ai vu une pièce de théâtre pendant mon spectacle de danse, parce que j'ai fait de la danse pendant 7 ans. Du coup, j'ai vu une pièce de théâtre et je me suis dit, faut que je le fasse. Faut que je fasse du théâtre. Donc je me suis mise à faire du théâtre et c'est devenu du coup ma passion. Parce que j'adore parler, mais surtout faire rire les gens. C'est vraiment passe-temps favori, quoi.
Et oui, comme tu disais, incarner des émotions, pouvoir aussi exprimer des émotions parfois contenues et pouvoir enfin les sortir de soi, quoi.
Oui,
la colère, la tristesse, la joie. Non, c'est un formidable médium. Moi-même aussi, j'avais été dans une situation de harcèlement au collège et je m'étais retrouvé avec mon agresseur en théâtre et on s'était rabiboché. Étonnant. Donc quoi, à travers la scène. On n'a pas aussi parlé du cyberharcèlement, mais là aussi, on aurait beaucoup de choses à dire avec les portables, les réseaux sociaux. Toi, ça va? Comment t'arrives à s'y mettre de la distance avec les réseaux?
Moi, oui. Parce que déjà, quand je l'ai harcelé, j'étais beaucoup trop jeune pour avoir un téléphone. Mais surtout, mes parents ne voulaient pas. Et j'ai réussi à les convaincre d'en avoir un en quatrième, parce que sinon j'allais en avoir un en troisième. Bon, la honte, quoi. Ils voulaient pas que j'aie de réseaux sociaux ni rien, donc j'ai rabâché pour pouvoir avoir Snapchat, je l'ai eu, c'est tout, quoi.
Ouais, parce que même aussi, ils devaient se dire, mon Dieu, forcément avec toutes les formes de harcèlement qui existent.
Oui, et aussi, ils m'ont mis un contrôle parental.
Ok.
Family Link. Donc ça permet de voir ce que fait ton enfant. T'as aussi la géolocalisation dessus pour voir où il est, ce qu'il fait sur son téléphone, l'heure d'écran, l'heure du coucher.
Okay.
Au bout de tant d'heures, ça s'arrête. Et par exemple, les parents mettent une limite à 20h. Et à partir de 20h jusqu'à 8h du matin, il ne peut plus utiliser son téléphone, quoi.
Okay. Et toi-même, tu te sens plus en sécurité avec cette application?
Alors oui, parce que ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'être plus en sécurité et tout. Mais c'est très chiant. Très beaucoup.
Ah, il y a toujours...
Parce que t'as qu'une heure et demie de temps, ça s'éteint à 20h, donc si t'as des copains qui t'envoient un message ou des copines qui t'envoient un message, tu peux pas les regarder. Du coup, c'est très énervant.
Mais bon, au fur et à mesure aussi, quand ils vont se sentir en confiance aussi, peut-être lâcher un peu de lest. Et puis maintenant, on sent que tu es droite dans tes bottes, tu ne vas pas te laisser faire. Et non, harcèlement, qu'il soit en ligne ou en physique. Pour les numéros justement de cyberharcèlement, il y a le 30-18. Pour le harcèlement à l'école contre les violences, c'est le 30-20. On rappelle aussi, c'était Cyber Secours pour l'application à télécharger. Voilà, et le dispositif phare mis en place par le ministère. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches. On mettra aussi des liens sur la page rphfm.org. Et puis nous, on va de toute façon continuer cette émission et parler un peu de sujets plus légers, le théâtre, et recevoir ta prof de théâtre, quoi. Aussi, pour les références, on avait parlé du livre Marie, 13 ans pour toujours, qui parle frontalement, effectivement, d'une jeune de 13 ans qui s'était suicidée. Et c'est sa mère qui a décidé d'écrire ce livre, très poignant. Et je recommanderais aussi le film Despues de Lucia, qui est un drame franco-germano-néerlandais-mexicain, réalisé en 2012 par Michel Franco, qui est un film vraiment très 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 fort. Merci beaucoup pour ces témoignages, Célia.
Pas de rien.
Et peut-être un dernier mot aussi pour ceux qui nous écoutent.
Prenez soin de vous et dites-le si vous êtes harcelé ou que vous le voyez.
Ouais, surtout, brisez le silence. Et avant de commencer l'interview avec ta professeure, tu avais ramené une musique.
Oui, alors c'est une musique américaine d'une série qui s'intitule Julie and the Phantom. En fait, c'est une fille qui a perdu sa maman et sa maman faisait du piano, elle chantait, et du coup, sa fille aussi chantait, donc Julie. Et dans son garage, c'était un ancien groupe qui y vivait. Et en fait, ben, ils sont morts. Et du coup, ben, elle met leur musique, et du coup, ils apparaissent. Et dès qu'ils se mettent à jouer, les fantômes, ben, ça devient des vrais personnages. Et du coup, ben, sa carrière commence comme ça. Elle commence à chanter dans son lycée. Puis après, elle dit que du coup, elle peut pas dire que c'est des fantômes parce que sinon, elle prendrait pour une folle. Et du coup, ben, elle dit que c'est des hologrammes. Et du coup, ben, elle commence à chanter. Elle a beaucoup de chansons, elles sont très belles. Et c'est triste un peu, mais rock'n'roll, genre c'est un mélange. Voilà, c'est très beau.
Est-ce que tu peux rappeler le titre?
C'est... Briac.
C'est Bright, Bright, voilà. Bright, Bright, Brit. On va dire ça, Bright ou Brit. Voilà, une chanson remplie d'espoir et remplie d'amour. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Et merci à Audrey pour la technique. Sometimes I think I'm falling down. I wanna cry. I'm calling out for one more try.
Bonjour, je m'appelle Nathael. J'ai participé à la première émission radio, Jeune mais pas trop, et me voilà pour cette deuxième édition en présence de Jasmine, comédienne et prof de théâtre à Saint-André-de-Saint-Gonis.
Bonjour Jasmine.
Bonjour.
Donc tout à l'heure on a parlé de l'harcèlement et on a dit que le théâtre ça aidait pour les émotions, se libérer. Est-ce que tu le vois pendant les cours que ça aide à libérer les émotions ou pas?
Oui, moi je pense que le théâtre a un effet magique sur tout le monde. Et en particulier, bon, moi j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Et je trouve que c'est vrai que ça aide à plein de niveaux. C'est au-delà du théâtre et de l'activité théâtre. Chacun ne voudra pas faire carrière. Je trouve que c'est une activité qui est assez magique sur les bienfaits qu'elle entraîne, sur la timidité, sur les réserves, sur la honte, sur le harcèlement aussi, puisque ce sont des thèmes qu'on peut traiter en improvisation. Et comme ça, chacun aussi peut se mettre dans la peau d'un harcelé ou de quelqu'un qui se fait harceler. Et je pense que ça aide beaucoup dans ce sens-là à comprendre beaucoup de choses.
Ok. Et aussi, t'es comédienne, c'est ça?
Oui, alors je suis une comédienne depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai fait une école de théâtre à Montpellier, une école professionnelle, la compagnie maritime. Et après, eh bien, j'ai commencé dans différentes compagnies de théâtre et j'ai continué. Je suis arrivée à Saint-André-de-Saint-Gonis, je crois, en 2007. Il y avait déjà des cours sur Saint-André, donc j'en ai pas fait au début. J'en avais déjà fait beaucoup dans ma carrière. J'avais d'ailleurs voulu faire une pause. C'est très fatigant de faire des cours de théâtre, de transmettre le théâtre. J'avais beaucoup de cours avant. Et en fait, à un moment donné, la personne qui s'occupait du théâtre à Saint-André a décidé d'arrêter l'activité, elle aussi pour passer à autre chose, et elle m'a proposé de reprendre. Elle savait que j'étais comédienne, et c'est à ce moment-là que j'ai repris. Ça fait 10 ans, 11 ans maintenant. C'est la 11e année d'atelier théâtre à Saint-André-de-Saint-Gonis.
Ok, et du coup, tu fais que pour les enfants, c'est ça? De quel âge à quel âge?
Alors, à Saint-André-de-Saint-Gonis, je fais à partir... ça dépend des années. À partir cette année, j'ai du CE1 jusqu'à la seconde, avec deux groupes de collège et un groupe de primaire. Donc j'ai 38 enfants dans mes ateliers actuellement.
Ok, et pourquoi qu'avec les enfants et pas avec les adultes?
Alors j'ai fait avec les adultes avant, j'ai fait avec les étudiants aussi, les étudiants du CROUS, j'ai fait en conservatoire aussi. Et à Saint-André, ben déjà, ça me fait 3 ateliers. C'est déjà assez lourd avec 3 pièces à monter chaque année. Donc, on m'a beaucoup demandé parce qu'il y a beaucoup de demandes. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour des cours adultes à Saint-André et avec les villages avoisinants. Mais c'est beaucoup de travail aussi. Et chaque pièce à monter est exigeante. Donc, j'ai beaucoup d'élèves et beaucoup d'enfants que j'aime beaucoup le travail avec les enfants. C'est pour ça que je me concentre sur les enfants. Après, les attentes, je crois, sur les adultes, sont différentes. Je crois que eux, c'est surtout jouer. Et que les enfants, il y a aussi apprendre. Et j'aime bien allier les deux, apprendre et jouer.
Et du coup, tu fais de l'impro, tu fais que de l'impro dans tes cours ou aussi tu fais, par exemple, pas que de l'impro, quoi?
Alors, dans les exercices, enfin, tout au long de l'année, il y a des exercices que je propose pour apprendre à appréhender l'espace, la communication avec les autres, à s'exprimer sur scène, à exprimer des émotions, comme on a parlé au tout début. Donc, il y a des exercices plus ou moins simples qui peuvent se complexifier au fur et à mesure de l'année. Et par contre, sur des élèves un peu plus grands, donc c'est le cas pour les grands élèves de collège et des collèges qui ont déjà pratiqué, on part plus sur de l'impro. Donc toi, tu fais partie de mes collégiennes qui maintenant ont un certain niveau. Et oui, je fais plus d'impro à ce moment-là parce que vous avez déjà tous les instruments pour pouvoir les utiliser et commencer à faire de l'impro, qui est une étape, je dirais, fondamentale, mais qu'on peut complexifier au fur et à mesure qu'on connaît mieux le théâtre.
Et du coup, tu fais plusieurs types d'exercices, c'est ce que tu viens de dire. Mais du coup, quoi ?
Alors, les exercices, ça peut être très diversifié. Les exercices que les étudiants aiment bien, en général, je dis étudiants, c'est les élèves, c'est par exemple les images arrêtées. Je donne un thème, ils doivent construire une image de ce thème-là, par exemple un mariage. Ils doivent composer l'image. Elle est arrêtée au départ. Je préfère commencer par une image arrêtée. Déjà, comment on constitue une image, comment on la met en scène, que tout le monde soit visible, que tout le monde trouve sa place. Déjà arrêté, c'est difficile. Après, si on va plus loin, eh ben, quand cette image se met à bouger, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est l'étape deuxième. Après, il y a plein de types d'exercices. Je peux même demander de faire des animaux, de jouer des personnages, d'imaginer qu'on s'envoie des objets, de les transformer. Enfin, il y a tout un tas d'exercices. C'est pour surtout développer l'imaginaire et la capacité à s'exprimer. Nathalie, toi, tu nous écoutes depuis tout à l'heure, ça a des questions?
Pas forcément.
T'as déjà fait du théâtre?
Oui.
Oui, c'est vrai?
En école primaire, à Saint-Jean-de-Fosse.
Et ça t'a plu?
Oui.
Pas plus?
Ouais, pas plus.
Et toi, ça te passionne, Célia?
Ah oui.
Alors, mais dis-nous pourquoi?
Parce que ça permet de m'exprimer.
Oui.
Et ça permet d'exprimer ce que j'ai à dire. Et puis c'est surtout que j'adore parler déjà de un. Et puis d'être dans un autre personnage que moi, c'est extraordinaire.
Et je crois que c'est ça la liberté qu'on a en tant que comédien. Et c'est là où ça aide beaucoup les enfants à s'exprimer. C'est que justement, c'est ce que je leur dis s'ils ont peur. C'est qu'au moment où on est comédien, on devient quelqu'un d'autre. Et ça nous permet d'exprimer beaucoup de choses qu'on n'oserait pas faire autrement. Donc je comprends ce que tu dis et je le vois quand tu es dans mes ateliers. Je vois que tu es demandeuse, que tu as envie de faire et que tu es force de proposition. Et c'est chouette et tu es très, très à l'écoute. Donc tu fais partie des élèves qui écoutent beaucoup et ça fait plaisir.
Et du coup, j'imagine que c'est pour ça que tu aimes le théâtre aussi
Oui, moi, à la base, je suis aussi très timide. À la base, j'étais très réservée. J'ai toujours eu la passion du théâtre. Petite, je sais ce que je voulais faire, mais je ne l'ai pas fait de suite. J'étais très timide. Je n'ai même pas fait de cours à ton âge. J'avais vraiment trop peur. J'en rêvais, vraiment. Je regardais les ateliers théâtre en me disant « j'aimerais y aller », mais je n'ai pas osé franchir la porte. C'est en grandissant, c'est plutôt en commençant l'université que j'ai osé en fait faire des ateliers théâtre, commencer dans un atelier et de plus en plus monter sur scène. Et après c'est venu tout seul. Voilà, je suis timide moi aussi. Et c'est vrai que ça permet de s'exprimer, d'exprimer des choses qu'on n'ose pas et que c'est aussi un engagement quand on fait du théâtre. Enfin moi je le prends comme ça beaucoup. Donc je peux exprimer des choses que j'ai envie de dire. Je fais des pièces si je peux qui sont engagées sur des sujets. Donc j'ai joué récemment dans ton collège Anne Frank, le journal d'Anne Frank, donc voilà, parce que c'est un sujet que je trouve important. C'était aussi en relation avec les jeunes puisque ça parle de la guerre, mais ça parle aussi d'une jeune fille de 13 ans qui écrit son journal et de la façon de l'exprimer. Donc voilà, ça permet de défendre des sujets comme ça. Je joue aussi un autre spectacle qui est sur Victor Hugo, qui est sur la misère. Donc voilà, ça permet de prendre des thèmes et de pouvoir les défendre, les porter sur scène, et ça c'est vraiment une passion et un plaisir.
Du coup, tu as dit que tu faisais des spectacles, mais où, quand, est-ce que tu en as un prochainement ou pas?
Alors oui, donc je joue beaucoup sur Montpellier dans un théâtre qui s'appelle le Carré Rondelet, parce que c'est un théâtre qui défend beaucoup le texte, les mots, et moi je suis vraiment sur ce registre-là. Je joue aussi à Nîmes, au Télémac, à Avignon, en fait dans le Grand Sud, on va dire, sur des théâtres. Et après je joue en jeune public, je joue beaucoup pour les écoles, donc j'ai joué pour Saint-André de Sangonis, pour la commune, pour l'association La Sauce qui accueille mes ateliers théâtre, pour les médiathèques environnantes. Donc bientôt, je joue à la médiathèque de Montadis dans l'Hérault. Ensuite, le 10 juin à Sérignan. Enfin voilà, les médiathèques, les écoles pour le jeune public.
Et du coup, comment tu fais pour gérer ton stress sur scène? Comment tu fais du coup pour te concentrer, pour ne pas être stressée une fois que tu montes?
Alors ça, je pense que c'est l'expérience qui permet. J'avais beaucoup le trac, même beaucoup trop, je pense, au début de ma carrière. C'est vrai que le trac, c'est important de l'avoir, mais il ne faut pas que ça empêche de jouer. Et en fait, plus on travaille, plus on est sûr de soi, moins on a le trac. Donc ça, le travail, c'est la base. C'est ce que j'essaye de dire à tous mes élèves. Et Après, souvent, le trac, on l'a quand même, je l'ai tout le temps. Tout le temps, il m'arrive souvent encore, même avant de monter sur scène, de me dire, mais pourquoi je fais ça? C'est de la torture. Mais une fois qu'on a commencé la pièce, ça, on l'oublie. Une fois qu'on a commencé, il n'y a que le plaisir. Je crois que tu as éprouvé ça et c'est pour ça qu'on y revient toujours. C'est pour ça que tu en fais, c'est pour ça que tu en referas. Et une fois qu'on y a goûté et qu'on a aimé, parce qu'on peut ne pas aimer hein, aussi l'expérience, on y revient. Et donc, je pense aussi, c'est de se dire, comme tu en as parlé tout à l'heure aussi, on est notre personnage. Ça aussi, ça nous met dans la pièce. Et de plus être soi, c'est plus facile. Là, tu as eu le trac tout à l'heure à la radio. C'est parce qu'on est soi à la radio. On n'est pas un autre personnage. Donc, on est plus dans la timidité. Oui, c'est si difficile.
C'est quoi ton style de théâtre? Les pièces que tu fais? C'est plutôt dans, du coup, quel style?
Alors, comme je disais, moi, j'aime bien les textes classiques. Je suis partie de là. Ça a toujours... Alors, ça, j'ai aimé dès la sixième. Hein. Moi, le médecin m'a réduit. Tout de suite, ça m'a plu. Molière, tout de suite, ça m'a plu. Là, j'ai même pas osé encore faire avec les ateliers du Molière, du classique. Le langage est compliqué. Enfin, c'est moi qui me dis ça, mais je pense qu'un jour, je vais me plonger avec vous là-dedans quand même. Mais moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, Molière, Racine, les registres un peu tristes, c'est plutôt mon registre à moi. J'ai essayé la comédie. Moi, ça va, je me défendais, mais c'est moins mon univers à moi. Donc, je suis plus allée sur des drames, mais pas que. J'ai fait une adaptation de Bobby Lapointe aussi. J'aime bien adapter les textes, moi, de partir des idées. Et après, ça vient aussi au fur et à mesure des demandes, des rencontres que je fais avec des gens. J'ai aussi un spectacle qui est sur les fêtes votives. Et j'ai un spectacle avec quelqu'un de Saint-André, de l'association La Sauce, qui s'appelle Mère, qui est aussi un spectacle sur l'amour. C'est aussi des thèmes que j'aime beaucoup.
Et c'est toi qui choisis tes textes, du coup, pour, par exemple, le groupe de théâtre, c'est toi qui choisis et tu les modifies, c'est ça?
Alors oui, pour les ateliers théâtre, en fonction des groupes, j'apprends à vous connaître sur toute la première partie de l'année. Donc le premier trimestre, j'apprends à vous connaître, à connaître vos envies, à déceler un petit peu ce que vous avez besoin de faire. Et à partir de ce moment-là, je commence à chercher des textes. C'est jamais adapté 100% à votre distribution, au nombre que vous êtes, ou à la distribution aussi que vous avez envie, si vous avez envie de beaucoup de textes, moins de textes. Donc après, en fonction de ce que je sais de vous et ce que j'ai envie que vous défendiez, j'adapte le texte. Donc je crée des rôles, je tue des personnages, j'adapte. Et aussi pour que, voilà, pour des fois, pour agrémenter aussi des textes pour que ce soit plus intéressant pour vous. Des fois, le registre jeune public, ben voilà, je mets des choses aussi, j'allie selon les âges pour que ce soit plus étoffé si vous êtes plus grand que l'âge qui correspond à votre texte, quoi. Alors, il y a peut-être, tu as envie de parler d'une date qui te concerne particulièrement?
Oui, le 14 juin à 19h, il y a un spectacle à Saint-André, à la salle des fêtes. Mais aussi le 13 juin, il y a le deuxième groupe du coup de théâtre qui va jouer à 19h. C'est un mardi, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc, venez. Venez nombreux.
À la salle des fêtes, le mardi, donc le groupe 1, le groupe 2 des ateliers théâtre, et le mercredi 14 juin à 19h, le groupe où est Célia. Et elle joue, je ne sais pas si tu peux nous en dire plus sur ton personnage ou la pièce.
Moi, je vais jouer, donc ce sera une pièce qui s'appelle « Le kidnapping des kids ». C'est une histoire, Enola Holmes, du coup, qui va résoudre une enquête. Moi, du coup, avec la commissaire Blackwood, on va aider Enola Holmes à résoudre l'enquête.
Tout à fait, tu fais partie de Scotland Yard.
Voilà.
Eh bien, on a hâte. J'ai hâte de vous voir sur scène et j'espère que le public sera au rendez-vous pour vous voir et vous applaudir. Vous le méritez beaucoup.
Est-ce que vous avez... un extrait de texte à nous dire que vous avez fait.
Ok, écoute, je vais vous faire le début d'Anne Frank, la première phrase qu'elle dit donc au début du spectacle. J'espère pouvoir tout te confier, comme je n'ai encore pu le faire à personne. J'espère aussi que tu seras pour moi un grand soutien. Voilà, ça c'est Anne Frank qui commence son journal et après donc elle explique ce qui lui est arrivé dans l'annexe où elle a vécu 2 ans.
Merci.
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 Merci à vous.
Donc on remercie Famille Rurale et RPH
et bien sûr Jasmine qui est venue pour notre émission.
Merci beaucoup à vous.
Pour nous parler du théâtre, de son parcours.
Ben, c'était un plaisir.
Du coup, bon, on se retrouvera prochainement pour une autre émission de Jeune mais pas trop. Donc, Nata, elle va annoncer le...
Jingle.
Ouh.
On passe à Jiminani... Jimmy à Mélanie Fermeur tout jamais de Emilène Fermeur de Et maintenant nous allons conclure avec le morceau à tout jamais
de Emilène Fermeur. Grosse dédicace à Audrey
Bré, la bosse, et c'est parti.
Seconde, je n'ai plus pas seul.